Les féminismes vus par un homme. Depuis quelques années, le féminisme est revenu sur le devant de la scène. Certaines femmes parlent de féminisme au pluriel. Pourquoi ? Une même intelligence nourrie par des pensées et des cultures différentes ? Oui. Des manières plurielles d'être femme sous un même habit ? Pourquoi pas ? Et surtout, des manières différentes de vivre le point incontournable de toute femme, la maternité. Les femmes, toutes les femmes, savent que cette expérience leur appartient en propre. Elles deviendront, ou pas, mères, mais personne ne leur enlèvera cette possibilité. Françoise Héritier, ethnologue et anthropologue décédée en 2017, Françoise Héritier a, par ses travaux, montrer et répéter que la domination des hommes sur le corps des femmes pour avoir le contrôle de la reproduction est une construction universelle, bien qu'elle soit déclinée différemment dans chaque société. Cela veut dire que pas une seule société n'utilise, tant dans le langage que dans l'administration, des signifiés féminins. Par exemple, aucun enfant ne porte le nom de la mère par principe. En revanche, par exception, un enfant peut porter le nom de la mère. Et il est possible que cela dure quelques années encore. Écoutons Françoise Héritier. La reproduction des hommes est un instrument de la reproduction de l'ordre social. Elle entre dans la représentation symbolique de l'ordre social au point qu'on a pu dire qu'un système de parenté n'existe que dans la conscience des hommes et qu'il n'est qu'un système arbitraire de représentation. S'insurgeant contre cet ordre des choses qui se reproduit sans fin, les féministes ont mis au point des slogans « Notre corps nous appartient » et « Un enfant comme je veux, quand je veux, avec qui je veux ». La femme porte le bébé en gestation jusqu'à la naissance. L'homme l'accompagne, mais n'a qu'une représentation de ce phénomène. Il ne sait pas physiologiquement ce que signifie la grossesse. Il n'en connaît pas les sensations. Et pour combler ce manque, pour participer à la joie que représente l'arrivée d'une nouvelle vie sur Terre, il a décidé de donner son nom au bébé. Enfin, pas toujours. Un enfant appelé Esposito dans les siècles antérieurs était ainsi baptisé parce qu'après avoir été présenté au père supposé, on disait à l'époque exposé. Donc ce père supposé refusait de le reconnaître. Aujourd'hui, la loi permet à toutes les femmes de garder leur dignité après avoir mis au monde un enfant. Dans la quasi-totalité des cas, cette naissance est un bonheur pour la mère et son conjoint. Mais il existe des cas où la mère ne veut pas de l'enfant. Alors ce n'est plus un esposito, mais un enfant recueilli et soigné par une institution qui le confiera à un couple souhaitant l'adopter. La mère étant assurée de l'anonymat de son geste. C'est le plus souvent l'amour qui préside à l'union de deux humains pour enfanter. Pourtant, aujourd'hui, la science, qu'on présente comme la pointe de la modernité, nous habitue à dissocier ces opérations qui allaient de soi pour nos aïeux. L'acte sexuel et la procréation d'une part, le fait qu'un homme et une femme soient la condition sine qua non pour enfanter d'autre part. On voit des femmes vivant seules qui enfantent sans que ce soit de la parthénogenèse. On voit des couples homosexuels qui enfantent. Des tubes de sperme et des flacons d'ovocytes traversent les frontières pour se réunir dans l'utérus de femmes stériles. Il semble que le marché favorise ce genre de pratique, simplement parce qu'il y a de l'argent en jeu et que la société libérale nous a éduqués à mettre un prix sur nos désirs en incluant l'enfant comme jouet du désir. La science et les techniques médicales surmontent presque tous les handicaps posés par cette dissociation entre la mère biologique et la maternité effective. Il semble que toutes les revendications féministes, notre corps nous appartient, et un enfant quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, soient prises en compte. Mais il faut bien rémunérer les hommes et les femmes de science qui rendent ces grossesses possibles. Je rappelle que l'amour, c'est-à-dire l'union consentie de deux êtres qui se désirent, est gratuit. Mais que pèsent la gratuité et le don dans notre société libérale ? Mais la société étant ce qu'elle est, la maternité est un aspect de la vie de la femme qui pèse lourd dans son parcours social, notamment pour les femmes qui travaillent. Et cela concerne une autre revendication des femmes, féministes comprises, l'égalité entre femmes et hommes, qui se traduit par 1. À travail égal, salaire égal. Rappelons qu'à travail égal, une femme perçoit entre 15 et 25% de salaire en moins. C'est une fourchette moyenne. Cela touche aussi la frange de la population féminine la plus diplômée, d'où la stupeur créée par cette annonce périodique, car ces inégalités persistent d'année en année, de décennie en décennie. Voyons ce qu'en dit Françoise Héritier. Même si les femmes accèdent de plus en plus aux tâches masculines, il y a toujours, plus loin, plus avant, un domaine réservé masculin. Dans le club très sélect du politique, du religieux, des responsabilités entrepreneuriales, etc. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de l'expression de compétences particulières inscrites dans la constitution physique de l'un et l'autre sexe. Ce sont elles, les compétences particulières, qui sont à l'origine des catégories cognitives, opérations de classement, opposition, qualification, hiérarchisation, grille où le masculin et le féminin se trouvent enfermés. Toujours Françoise Héritier, si l'on donne une explication naturelle aux différences sociales et professionnelles entre les hommes et les femmes, tout programme social pour l'égalité des chances devient inutile. L'explication naturelle, nous la connaissons tous. Ce sont les femmes qui enfantent et s'occupent des enfants. Donc, elles sont moins présentes au travail, moins assidues, etc., etc. Si je résume, quelles que soient les explications et les objections, les hommes s'arrangent pour que le pouvoir et l'argent restent dans leur poche, les femmes n'étant en poste que par leur bon vouloir. Habituellement, quand on fait un tel constat, on pense qu'il faut que ça change. On se dit qu'il faut aller vers plus d'égalité, qu'il faut réduire cette discrimination sur les salaires. Et des lignes de fracture apparaissent au sein des revendicateurs. Il y a les réformateurs qui pensent qu'on peut faire évoluer les choses, et les révolutionnaires qui pensent qu'il faut changer le système qui tolère ça. Et la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'il faut continuer avec la domination masculine et en atténuer ses travers? Ou bien changer le modèle social, c'est-à-dire mettre à bas le capitalisme et ses avatars? Voilà ce qu'en disait Pierre Bourdieu, sociologue qu'on ne présente plus, dans La domination masculine, livre paru en 1998. Le propre des dominants est d'être en mesure de faire reconnaître leur manière d'être particulière comme universelle. Il est en phase avec Françoise Héritier. Pierre Bourdieu à nouveau, lorsque les dominés appliquent à ce qui les domine des schèmes qui sont le produit de la domination, ou, en d'autres termes, lorsque leurs pensées et leurs perceptions sont structurées conformément aux structures mêmes de la relation de domination qui leur est imposée, leurs actes de connaissance sont inévitablement des actes de reconnaissance, de soumission. Formulé autrement, cela donne connaître par quels moyens on en est arrivé là et mettre sur la table les éléments pour améliorer la situation est un acte de reconnaissance et de soumission. Mais de là à mettre en place des outils pour que ça change, c'est comme pédaler sur un vélo d'appartement pour produire sa propre électricité. C'est difficile et ça ne marche pas tous les jours. Donc, est-ce que les femmes veulent que ça change ? Oui ou non ? Utiliser la loi et autres actes contraignants pour faire changer les choses ne sapera pas les fondations de la domination masculine. Alors à quand la révolution ? Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Hélas, non. La révolution ne fait plus recette. Si en Russie, en 1917, quelques femmes ont accédé au pouvoir, comme la belle et célèbre Alexandra Kollontai, très vite, elles ont été priées de s'occuper de ce qu'elles savaient le mieux faire, des enfants, et travailler pour encourager les hommes. Tout se passe comme si les féministes voulaient montrer qu'elles agissent pour que ça change. Elles médiatisent leurs annonces, alors que la majorité des femmes acceptent les salaires qu'on leur propose dans le contexte des inégalités de salaire. Mais les féministes ont d'autres sujets qui font désordre à lancer à la figure des hommes, comme la séduction, le désir, la générosité et bien d'autres choses encore. On aurait pu penser que dans les sociétés occidentales, la femme libérée de sa fonction de reproductrice, avec les moyens de contraception existants, se serait émancipée sexuellement et serait devenue un homme comme les autres, en usant et abusant de la séduction. Nous reviendrons sur ce sujet dans une prochaine humeur. Une bonne humeur, bien sûr. Allez, on termine avec une petite citation de Pierre Bourdieu. Les mêmes tâches peuvent être nobles et difficiles quand elles sont réalisées par des hommes ou insignifiantes et imperceptibles, faciles et futiles quand elles sont accomplies par des femmes. Comme le rappelle la différence qui sépare le cuisinier de la cuisinière, le couturier de la couturière. Il suffit que les hommes s'emparent de tâches réputées féminines et les accomplissent hors de la sphère privée pour qu'elles se trouvent par là même ennoblies et transfigurées. Merci, Monsieur Bourdieu.